VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et très bon début de journée à l'écoute de VOA Afrique. Merci de votre fidélité au micro, Nicolas Pineau et Michel Joseph. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission ce matin.
Londres et Washington jugent probable qu'une bombe ait pu faire exploser l'avion russe qui s'est écrasé la semaine dernière en Égypte.
À Brazzaville, l'opposition lève la suspension de ses marches pour protester contre le référendum.
L'IDC et le FOGAD réaffirment solennellement que leurs relations sont au beau fixe et que leur objectif demeure le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique et pacifique dans notre pays.
Au Burundi, jour J, moins deux avant la fin de l'ultimatum du gouvernement pour désarmer ceux qui s'opposent à un troisième mandat.
Après 36 ans au pouvoir, Teodoro Biangema en piste pour être à nouveau désigné par son parti.
Construire des hôpitaux qui, la plupart des gens de la Guinée équatoriale ne peuvent pas payer une nuit dans des hôpitaux, c'est pas quelque chose qui va bénéficier la société.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le Journal des Sports, la 7e étape du Tour du Faso. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Une centaine de parlementaires centrafricains ont participé hier à une marche pacifique dans Bangui pour dénoncer les récentes violences et demander le réarmement rapide des forces armées. L'heure n'est plus aux condamnations. Nous attendons du gouvernement des actes concrets, a déclaré Alexandre Ferdinand Nguende, président du CNT.
En Ouganda, la commission électorale a validé les candidatures du président Yoweri Museveni et de ses principaux adversaires pour la présidentielle de l'année prochaine. Le président Yoweri Museveni est au pouvoir, je vous le rappelle, depuis 1986. Il est le grand favori de la présidentielle en février. Son parti, le Mouvement National de Résistance, est également donné largement favori aux législatives et aux locales qui auront lieu en même temps.
Pendant ce temps, à Abidjan, le président ivoirien réélu Alassane Ouattara a présidé hier son premier conseil des ministres en maintenant son équipe gouvernementale. Nommé en novembre 2012, le premier ministre Daniel Kablang Dankang reste le chef d'un gouvernement de 28 ministres.
Réunion hier à Ouagadougou des chefs d'état-major du G5 Sahel et de la France. Ce groupe créé l'année dernière regroupe le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad pour faire face aux djihadistes. Arzouma Compaoré nous en dit plus.
La rencontre vise à faire le point sur la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. D'après le général Seyni Garba, chef d'état-major de l'armée nigérienne, des progrès ont été accomplis grâce à la coopération militaire régionale, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il a cité le nord du Mali, une fois occupé par les islamistes armés, qui a changé grâce à une intervention internationale lancée par la France. Le général Seyni Garba a ajouté que Boko Haram en est réduit à se livrer à des attaques kamikazes ou à quelques incursions. Pour le général Mahamane Touré, chef d'état-major malien, il subsiste, dans chacun des états, des menaces en matière de terrorisme ou de criminalité. Il a reconnu que les frontières sont poreuses et les ressources limitées pour les contrôler.
L'ex-patron de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, a été mis en examen pour corruption par des juges français. Âgé de 82 ans, le Sénégalais qui a laissé son poste cet été aux Britanniques a été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé, a indiqué mercredi le parquet national financier. Placé sous contrôle judiciaire, il a été laissé libre.
Autre affaire judiciaire, l'arrestation à Conakry hier d'un militaire et d'un policier malien. Ils sont les présumés cerveaux de l'évasion du poste de police de la gendarmerie du camp 1 à Bamako. À l'époque, les évadés étaient au nombre de 9, dont un civil. Les détails de cette arrestation avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Après le soldat Noum Djibo et le caporal Segouba Traoré qui ont été appréhendés dans la région de Kaye 24 heures après leur évasion, depuis, les forces spéciales maliennes étaient en alerte. Ainsi, en collaboration avec les autorités guinéennes, les forces spéciales sur les traces des évadés sont parvenues à mettre la main sur deux autres fugitifs. Il s'agit du capitaine Mamadou Alassane Maïga et de l'élève inspecteur Suleiman Doukara. Tous deux étaient depuis 3 semaines logés à Conakry chez une de leur connaissance nommée Sanou. C'est chez ce dernier que les forces spéciales maliennes, en étroite collaboration avec les autorités guinéennes, ont mis la main sur les deux évadés. C'était aux environs de 15h, ce mercredi 4 novembre 2015. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au moins 36 personnes ont été tuées hier à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Un avion de type Antonov s'est écrasé. Vieux de 44 ans, il n'aurait pas dû voler, selon son constructeur. L'avion n'a miraculeusement pas fait de victimes parmi les habitants au sol.
Par ailleurs, l'armée gouvernementale sud-soudanaise et la rébellion se sont accordés sur la répartition des troupes autorisées à rester à Djouba une fois la capitale démilitarisée. Il s'agit d'une étape importante de l'accord de paix signé en août pour mettre fin à la guerre civile.
Vive émotion hier en Guinée, où des dizaines de Guinéennes ont manifesté à Conakry pour protester contre l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences envers les femmes. Le pays est encore sous le choc après la diffusion d'une vidéo d'un viol présumé circulant sur les réseaux sociaux. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Plus de 150 personnes, dont des hommes, ont répondu présents à l'appel du collectif « Touche pas à ma sœur » pour marcher contre les violences faites aux femmes. Non, c'est non, respect aux femmes ou stop à l'impunité, pouvait-on notamment lire sur les banderoles ou pancartes brandies par les manifestants. Le collectif a été formé à la suite de la publication la semaine dernière d'une vidéo montrant l'agression sexuelle d'une jeune fille filmée par son agresseur. Cette vidéo a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le collectif qui réclame une tolérance zéro contre ce type d'agression. La présidente d'une ONG de défense des droits des femmes, Moussa Yeroba, a dénoncé une recrudescence des viols en Guinée, notamment en cette année 2015. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la diffusion de la vidéo, deux hommes, arrêtés le 29 octobre, ont été inculpés de complicité de viol lundi. Selon les autorités, un mandat d'arrêt international a été émis contre le principal suspect en fuite en Côte d'Ivoire.
Trois journalistes zimbabwéens ont comparu devant un tribunal de Harare pour publication de fausses nouvelles après avoir mis en cause des policiers et des responsables de parcs nationaux dans l'empoisonnement d'au moins 60 éléphants. Ils ont été libérés contre une caution de 100 dollars chacun.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle à des négociations dans les mois à venir entre les protagonistes du conflit au Sahara occidental, soulignant que l'émissaire onusien Christopher Ross intensifiait ses efforts en ce sens. Le Sahara occidental est une ex-colonie espagnole, contrôlée par le Maroc, mais revendiquée par le Front Polisario.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le crash d'un avion russe en Égypte, alors que le groupe État islamique a réaffirmé être à l'origine du drame, Londres et Washington jugent probable qu'une bombe soit à l'origine de la catastrophe. Londres a même décidé cette nuit de suspendre les liaisons aériennes avec la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Henri Francisque.
Il y a une forte probabilité que le crash a été causé par un engin explosif se trouvant dans l'avion, a affirmé le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, après une réunion d'urgence du gouvernement. À la lumière de nouvelles informations, nous avons décidé par précaution de suspendre les vols entre Sharm el-Sheikh et le Royaume-Uni, alors que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi est à Londres pour une rencontre ce jeudi avec David Cameron, le premier ministre britannique. Après l'annonce de Londres, l'Irlande a demandé à ses compagnies de suspendre leurs vols vers et en provenance de l'aéroport de Sharm el-Sheikh et de ne plus survoler le Sinaï jusqu'à nouvel ordre. L'aéroport de Sharm el-Sheikh accueille chaque jour des milliers de touristes venus passer des vacances sur la mer Rouge. Il se trouve dans le Sinaï, mais loin du secteur où sévit la branche égyptienne du groupe État islamique. Cette branche a réaffirmé mercredi sur Twitter être à l'origine de la catastrophe. L'Airbus A321 s'est écrasé samedi dernier, 23 minutes après avoir décollé, tuant ses 217 passagers et ses 7 membres d'équipage. Les recherches se poursuivent pour retrouver les derniers corps et d'éventuels indices dans une vaste zone désertique.
Les États-Unis accusent la Russie d'aggraver dangereusement le conflit en Syrie par des bombardements qui tuent des civils et font croître le flux de réfugiés. Washington estime que Moscou renforce le régime de Damas plutôt que d'affaiblir le groupe État islamique. Sur le terrain, les forces armées syriennes ont brisé le siège imposé depuis plus de 2 semaines par l'EI au quartier sous leur contrôle à Alep.
Amnesty International accuse le régime syrien de tirer profit des disparitions forcées. Les familles qui cherchent désespérément à savoir ce qu'il est advenu d'un proche disparu sont impitoyablement exploitées par des individus qui leur soutirent de l'argent, explique l'ONG. Selon Amnesty, plus de 60 000 civils ont disparu depuis le début du conflit déclenché en mars 2011.
Nouvelle réunion diplomatique sur l'Ukraine demain. Les chefs de la diplomatie russe, ukrainienne, allemande et française se retrouveront à Berlin. Si depuis plus de deux mois, les combats ont largement cessé en vertu d'une nouvelle trêve décrétée le 1er septembre, des heurts réguliers ont encore lieu dans l'est ukrainien.
C'est la fin de ce journal ce matin sur VOA Afrique. On parle à présent économie, la Minute Éco, présentée ce matin par Anastasie Tudiech.
Le fonds d'investissement de l'AFDA annonce une prise de participation directe de 3 millions d'euros dans Chain Hotel Conakry, propriétaire du Noom Hotel Conakry. L'hôtel devrait ouvrir fin mars, début avril 2016 et disposera de 187 chambres. D'autres hôtels sont annoncés à Dakar, Conakry, Abidjan, Pointe-Noire, Freetown et Niamey. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 37,3 millions de francs CFA pour le financement de la partie camerounaise du projet de dorsale de télécommunications en Afrique centrale. Ces fonds devraient financer la construction de 916 km de fibres et l'installation d'infrastructures énergétiques et sociales au profit des populations locales. La Guinée-Bissau devient l'ultime pays de l'UMOA à accueillir la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, acronyme BACI. Ouverture prévue premier semestre 2016. Dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement liant la France et la Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement et le gouvernement ivoirien ont signé le 2 novembre dernier une convention qui prévoit entre autres nombreux projets la réhabilitation de la route Boaké-Ferkessé-Dougou au nord du pays et celle du pont Félix ou Fouette-Boigny d'Abidjan. Montant total des travaux, 125 milliards de francs CFA, soit 190,56 millions d'euros.
Merci Anastasie. Place au sport. Pour en parler ce matin, nous retrouvons Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
Allez, on parle cyclisme, le Tour du Faso. La 7e étape tout à l'heure.
Oui, c'est la plus courte étape du Tour du Faso avec 85 km qui mènera donc le peloton ce matin de Bobo Dioulasso à Banfora. Il faut dire que hier, le Burkinabé Abdulaziz Nikema, vainqueur de la dernière édition en 2013, a remporté la 6e étape, une distance de 134 km qu'il a remportée en 2h58 minutes 59 secondes à près de 45 km/h de moyenne. Ajoutons que le Marocain Moussine Lasseni reste toujours leader du classement général.
En football, suite hier soir de la 4e journée de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, les Français de Lyon sont tombés 2-0 face au Zénith Saint-Pétersbourg. La Gantoise a battu Valence 1-0. Victoire de l'AS Rome sur le Bayer Leverkusen 3-2. Le Barça a assuré en infligeant un 3-0 au Baté Borisov. Peu de chance pour le Dynamo de Kiev en déplacement chez l'Olympiakos 2-1. Le Bayern Munich a écrasé 5-1 Arsenal.
Football toujours, match de qualification pour le Mondial 2018. La FIFA a imposé à la Palestine de recevoir l'Arabie Saoudite et la Malaisie sur terrain neutre.
Oui, et c'est pour des raisons de sécurité, alors que l'équipe saoudienne avait renoncé la veille à jouer à Ramallah. Cette décision fait suite à une réunion tenue mardi en Palestine entre les officiers de sécurité de la FIFA et les autorités locales, à la suite de laquelle l'autorité palestinienne a confirmé qu'elle ne pouvait plus garantir la sécurité autour des matchs en question. C'est ce qu'indique un communiqué de la FIFA.
Un mot de tennis, les Masters de Paris-Bercy chez les hommes se poursuivent. Les stars ont pris la voie rapide pour rallier les huitièmes de finale. Roger Federer, Andy Murray et Rafael Nadal ont mis moins de 3 heures au total pour balayer leurs adversaires. Tout d'abord, le Suisse a été le plus expéditif, 47 minutes contre l'Italien Andrea Seppi, le score 6-1, 6-1. Le Britannique a lui battu le Croate Borna Koric en 6-1, 6-2 en 58 minutes. Quant à l'Espagnol, il a battu le Tchèque Lucas Rosol en 1h, 1 minute, le score 6-2, 6-2.
Et puis Nicolas, pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, Bagassi, ici à Washington, dans la capitale américaine, les Wizards ont dominé les Spurs de San Antonio 102-99. Indiana se reprend et bat Boston 100-92. Atlanta atomise Brooklyn à domicile 101-87. Ça passe aussi pour Cleveland contre les Knicks de New York 96-86. Duel très serré entre Orlando et Houston qui tourne à l'avantage des Texans qui l'emportent 119-114. C'était Bagassi Koura pour le Journal des Sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique sur votre poste radio, votre téléphone ou sur Internet. Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Première escale au Congo-Brazzaville où la plateforme IDC Frocad est revenue sur sa décision de suspendre toutes les manifestations de désobéissance civile contre le pouvoir. À l'issue d'une réunion prise par les anciens ministres Guy Brice-Parfait et André Akombi Salissa, l'opposition a réaffirmé son engagement à protester jusqu'au retrait du projet de constitution qui vient d'être adopté dans le pays. Cette déclaration met aussi fin aux rumeurs qui couraient sur la dislocation de la plateforme IDC Frocad. Les détails tout de suite avec le correspondant VOA Afrique à Brazzaville, Nguelan Goussou.
La plateforme de l'opposition a remis de l'ordre dans la maison après des déclarations disparates diffusées ces derniers jours. Elle a réaffirmé son engagement à poursuivre des manifestations pour faire plier le pouvoir de Brazzaville. Guérome Kimfoussia, le porte-parole de l'IDC Frocad.
Contrairement à la rumeur largement relayée par les médias, l'IDC et le Frocad réaffirment solennellement que leurs relations sont au beau fixe et que leur objectif demeure le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique et pacifique dans notre pays. Nonobstant l'intimidation, la persécution, les rafles, les arrestations arbitraires, l'amalgame, l'intox, la manipulation, la désinformation, l'IDC rassure l'ensemble de ses militants et le peuple congolais sur toute l'étendue du territoire national que la désobéissance civile et citoyenne reste plus que jamais d'actualité. L'IDC Frocad reste ouvert aux négociations avec le pouvoir de Brazzaville, tel que préconisé par toute la communauté internationale et sous son égide.
Les opposants ont été renforcés avec le retour des anciens ministres Guy Brice-Parfait Kolela et André Okombi Salissa, désormais libres de tout mouvement après un blocus de plus de 10 jours chez eux. André Okombi Salissa.
Nous avons bien voulu réaffirmer ici la continuité de la désobéissance civile comme moyen de pression sur le pouvoir de Brazzaville qui ne doit pas se mettre au-dessus de la loi. Et vous demandez par quels moyens ? Ça va se traduire par les différents moyens qui vous seront communiqués le moment venu. Nous aviserons. Chaque fois que nous avançons, nous aviserons. Mais ce qui est clair et sûr, c'est que la désobéissance ne sera levée que quand toutes les conditions seront réunies et quand le peuple aura trouvé ce dont il cherche.
Clément Mirassa évoque les négociations avec quelques diplomates à Brazzaville avant de revenir lui aussi sur le sens du combat que mène l'opposition.
Bon, on ne peut pas aller vers cette situation ou ce fameux dialogue si on est toujours dans l'irrespect des textes, si on est dans les violations, si on est dans les enlèvements, si on est dans les traitements inhumains, dégradants de tous ceux qui sont enlevés. Ou ce qu'on apprend aujourd'hui en termes d'arrestation, d'enlèvement, de tous ceux qui sont contre le changement de la Constitution, mais c'est des choses qui ne sont pas explicables.
Qualifiés des derniers jours de rétropédalage ou de volte-face, les prises de position de l'IDC et Frocad se veulent désormais précises et clarifiées. Nguelan Goussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Direction le Burundi, plus que deux jours avant la fin de l'ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza pour demander de déposer les armes aux opposants au troisième mandat. Cinq membres du gouvernement, dont le premier vice-président du Burundi, ont procédé à une tournée dans les zones au sud de la capitale, Bujumbura. Mais le président de l'ADC, Kibiri, une coalition de formation politique de l'opposition, affirme que la seule issue reste un dialogue inclusif. Reportage du correspondant de VOA Afrique, Christophe Nkurunziza.
Léon Senguindakumana, président de la coalition de partis politiques ADC Ikiviri, Alliance pour la démocratie et le changement, reste un des rares politiciens qui a combattu le troisième mandat de Pierre Nkurunziza qui se trouve toujours à Bujumbura. Il réside dans sa maison située dans un quartier qui surplombe la ville. À la question de connaître sa réaction sur l'ultimatum lancé par le président de la République et les cinq ministres de son gouvernement qui ont sillonné mardi et mercredi les communes au nord et au sud de la capitale, Léon Senguindakumana se dit très serein.
Le président a fait une très mauvaise appréciation. Quand le président déclarait la guerre, les perdants, ce sont des Burundais aussi. Les victimes, ce sont des Burundais. Au stade actuel, la voie militaire, la voie de l'usage de la force n'est pas indiquée. C'est une voie qui conduit à des malheurs de tout un peuple. Il doit accepter le principe de la négociation politique.
Tout en reconnaissant qu'il y a des personnes qui possèdent les armes dans différents endroits de la capitale, le président de l'ADC Ikiviri est étonné quand les autorités parlent d'insurgés, Léonce Nguedakumana.
Ce qu'il qualifie d'insurgés, ce sont des Burundais qui ont dit non à la négation de l'accord d'Arusha, qui ont dit non à l'abrogation de la constitution de la République du Burundi, comme le Parlement évidemment l'a fait aussi. Ceux-là ne sont pas des insurgés. Les insurgés, ce sont ceux qui ont pris les armes militaires et policières pour détruire l'accord d'Arusha et la constitution de la République du Burundi. Et s'ils continuent à utiliser l'usage de la force, l'usage de l'arme, ils vont apprendre à d'autres Burundais pour se défendre l'utilisation des armes aussi.
Le premier vice-président du Burundi et les ministres de la Défense nationale et de la Sécurité publique ont, dans leur tournée mardi et mercredi à mairie de Bujumbura, réaffirmé que le temps des tergiversations est fini. Mais pour ce citoyen de la capitale qui a requis l'anonymat, ces discours des hautes autorités de l'État divisent la population.
Les Burundais, les ethnies confondues, ce sont des citoyens du Burundi. C'est-à-dire qu'ils lèvent certains citoyens pour tuer d'autres. Une fois, ils envoient les policiers ou les militaires dans ces quartiers, c'est-à-dire qu'il y aura des victimes. Et ces victimes, ce sont des Burundais, quelle que soit leur appartenance politique ou religieuse.
Les manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été violemment réprimées par certains membres des forces de l'ordre en mai et juin dernier. Après les élections du mois de juillet, la violence a pris les pas sur les manifestations. Des corps ont été quotidiennement retrouvés dans certaines ruelles des quartiers contestataires. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, parti au pouvoir, s'apprête à désigner ce mois-ci son candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine. De ce fait, les autorités ont fermé les frontières nationales jusqu'au 15 novembre. Les groupes de l'opposition et les ONG de défense des droits de l'homme accusent le président Biondguema de diriger la Guinée équatoriale d'une main de fer depuis 36 ans. Timothée Dolongmai a recueilli l'avis de Tutu Alicante, directeur exécutif de l'organisation Equatorial Guinea Justice, basée ici aux États-Unis.
Quand je parle avec mes collègues, des avocats qui travaillent sur le terrain des droits humains ou bien les gens de la société civile, ce qu'ils disent, c'est qu'en vue des prochains congrès du PDG, par exemple, toutes les frontières terrestres sont déjà fermées en Guinée équatoriale. On ne peut pas voyager entre Cameroun ou bien Gabon. On ne sait pas pourquoi, mais clairement, le gouvernement a peur de ce qui peut se passer. C'est pour cela qu'ils ont décidé de fermer les frontières. Le chômage en Guinée équatoriale continue à monter en flèche. Il y a beaucoup des entreprises qui ont été obligées de fermer ou bien réduire les effectifs de manière significative.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'activité des opposants de l'intérieur de la Guinée équatoriale?
Ça, c'est une très bonne question à poser aux gens de l'opposition. Pour nous, dans la société civile, clairement, on doit continuer à dire dans la communauté internationale. Ça, c'est un moment, c'est le moment d'investir dans la jeunesse, la prochaine génération des activistes qui vont travailler sur les droits de l'homme. C'est le moment maintenant d'investir avec les prochains cadres de journalistes dans le pays. C'est le moment de travailler avec la société civile.
Certains Africains disent que, contrairement aux autres chefs d'État, le président Obiangema a construit son pays, l'a doté d'infrastructures modernes en tout genre, qu'en dites-vous?
Ça fait longtemps que je n'étais pas en Guinée équatoriale, je ne peux pas entrer parce que le président lui-même, il m'a dénoncé comme un ennemi de l'État. Donc, je ne peux pas parler de l'infrastructure. Ce que je peux dire, que construire des hôpitaux qui, la plupart des gens de la Guinée équatoriale ne peuvent pas payer une nuit dans ces hôpitaux, c'est pas quelque chose qui va bénéficier la société. Mais ce qu'on doit savoir, la Guinée équatoriale, comme la plupart des pays en Afrique, c'est pas une dynastie. On est en train de parler d'un congrès, on va avoir les élections l'année prochaine, et tout le monde espère que c'est le fils Théodorine ou bien Gabriel qui va remplacer son père, ou bien.
Toutou Alicante, d'Equatorial Guinea Justice, il était joint à Miami.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la guerre en Syrie après la décision des États-Unis de déployer un petit nombre de leurs forces spéciales sur le sol syrien pour encadrer les combattants kurdes dans leur lutte contre le groupe État islamique. S'agit-il d'une inflexion dans la stratégie américaine? Les États-Unis doivent-ils en fait s'impliquer davantage militairement? Quid du rôle de la Russie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Une conférence sur la propriété intellectuelle pour une Afrique émergente se déroule à Dakar cette semaine. Pour en savoir plus, Eddie Sango a joint Yaoundé et François Guedog de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle.
Petit à petit, il y a une prise de conscience de questions liées à la propriété intellectuelle et j'en veux pour preuve l'implication déjà des décideurs politiques dans la question, un plus grand engouement dans cette question qui se manifeste par exemple dans les demandes de formation que nous avons et même sur les paramètres comme le volume de dépôts qui est en croissance progressive.
La contrefaçon est monnaie courante en Afrique avec la pauvreté, est-ce que vous pensez que l'Afrique pourrait se départir de la contrefaçon aussi facilement?
Nous faisons un travail dans ce sens-là, de sensibiliser sur les risques de la contrefaçon, parce que les risques de la contrefaçon sont énormes. Les risques encourus, les produits contrefaits sont des produits qui peuvent être très dangereux pour l'homme. Donc, en dehors du désastre économique que cela pourrait apporter, il y a ces risques inhérents. Donc, à travers les programmes de formation, de sensibilisation, l'OAPI essaie de mettre sa pierre à cet édifice pour combattre ce fléau au sein de nos 17 États membres. Il faudra peut-être du temps pour arriver à vaincre ce fléau.
Et quels sont les obstacles auxquels vous faites face?
Je pense qu'il y a une certaine méconnaissance des textes qui ne sont pas toujours connus par les acteurs de ce domaine. Il y a la mauvaise foi, bien entendu. Il y a bien entendu également la pauvreté qui fait le lit de ce fléau. Vous convenez avec moi que de façon naturelle, les clients auraient toujours un penchant vers le produit le moins cher, sans se poser la question de qu'est-ce que ça cache.
Vous avez parlé des produits moins chers et on sait que la plupart de ces produits viennent de la Chine qui a une influence presque sur tout le plan en Afrique aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette influence ne pourrait pas amener les Africains à suivre l'exemple de la Chine? On sait ce qu'est la Chine par rapport au droit de la propriété ou ce qu'elle a été.
Quand j'observe par exemple les statistiques ici à notre niveau, je constate que les dépôts, par exemple, en provenance de la Chine, sont en nette croissance. Ce qui veut dire que, du point de vue de la Chine officielle, ils s'inscrivent, n'est-ce pas, à vouloir conquérir de façon légale, si je peux ainsi dire, ces parts de marché-là.
François Guedog, il était joint à Yaoundé.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling,
ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out.
Voilà le rappeur Drake pour finir cette matinale. Merci pour votre fidélité. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde assurée par Michel Joseph. Nicolas Pineau était à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, on va saluer Nassirou Abou. Il est à Boïcon, c'est dans le Bénin. Et également Judieu Bigaroura. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet voafrique.com.